Pour un ex-ministre algérien de l'industrie, les pays africains devraient rejoindre les BRICS dans les meilleurs délais en vue de créer un groupe d'intérêt économique commun. D'ailleurs, le nouveau président brésilien, Lula da Silva, croit que son pays a beaucoup à apporter et à apprendre au continent africain. Dans un entretien accordé à Spoutnik, l'ancien ministre algérien de l'industrie, Ferhat Ait Ali, s'est réjoui de l'élection du leader du Parti des travailleurs, da Silva, au poste de président du Brésil. Ce dernier a tissé des liens forts avec les pays africains. Lula da Silva, en sillonnant pratiquement tous les pays d'Afrique, ne l'a pas fait seulement en bon samaritain, mais tout simplement parce qu'il croit que les pays émergents comme le Brésil a beaucoup à apporter à l'Afrique, parce qu'à un moment donné, ils étaient équivalents en matière de développement. Mais également, le Brésil a beaucoup à apprendre de l'Afrique, a fait savoir Ferhat Ait Ali. Le ministre algérien estime que c'est avec ce genre de puissance émergente et aussi avec le reste des BRICS, qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qu'on doit créer un groupe d'intérêt économique commun. Nous avons une destinée commune parce que nous avons en face une logique qui croit pour l'accumulation du capital à tout prix, par tous les moyens possibles imaginables. Je pense que les membres des BRICS devraient inviter à rejoindre les pays les plus proches en termes d'émergence économique et les pays africains qui sont plus soldés économiquement, essayer de rejoindre le groupe le plus tôt possible. Essayer déjà politiquement d'annoncer la couleur à l'Occident, game is over. Cette logique capitalistique qui permet à 10% de l'humanité de consommer 80% des richesses ne tient plus la route, a indiqué Ferhat Ait Ali. D'après l'interlocuteur de Spoutnik, le Brésil aimerait étendre ses activités à un continent qui partage plusieurs traits communs avec le continent sud-américain. Ne serait qu'en termes de pluviométrie plus basse que le Sahel, en termes de nature des sols. Donc on peut dire qu'à partir du Burkina Faso jusqu'au Congo, le Brésil a un rôle à jouer. Aussi, dans le domaine minier, les Brésiliens sont bien équipés et ils ont 2 siècles d'expérience en la matière et peuvent apporter leur savoir-faire aux Africains qui aujourd'hui donnent les concessions minières à des groupes capitalistiques qui ne donnent pas le 10e ou le 5e à ces pays d'où sont originaires ces ressources, a fait valoir Ferhat Ait Ali. Dans le cas des BRICS, ça serait mieux, estime-t-il. Il y a des pays des BRICS qui sont aussi spécialisés dans le domaine minier et y sont aussi intéressés comme la Chine et la Russie. Pour pouvoir prendre en charge l'exploitation des ressources minières africaines au profit de toutes les parties, à savoir les Africains eux-mêmes, qui sont les propriétaires de ces ressources, insiste l'ancien ministre. Ferhat Ait Ali a également tenu à souligner qu'il s'attendait à la réélection de Lula da Silva. Il voulait un grand Brésil, il le veut toujours d'ailleurs. Le peuple brésilien croit en sa volonté et à sa vision. Il voulait créer une dynamique économique brésilienne, mais qui ne se déconnecte pas de son environnement naturel, a-t-il indiqué.
Le président de Russie unie, Dmitri Medvedev, et le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, ont souligné lors de leur entretien mardi que la politique de l'Occident dirigée par les États-Unis envers l'Afrique restait coloniale. Les dirigeants de Russie unie et de la ZANU-PF ont souligné l'orientation coloniale persistante de la politique des États-Unis et de ses satellites envers les pays africains. Pour contrer les pratiques modernes de néocolonialisme utilisées par les Occidentaux, l'importance de créer un mécanisme approprié était soulignée, y compris en utilisant activement les capacités des principaux partis politiques en Russie et au Zimbabwe, a rapporté le service de presse du parti Russie Unie après la réunion. Le président zimbabwéen est également le premier secrétaire du parti Union nationale africaine, donc Front patriotique du Zimbabwe. La Russie a à plusieurs reprises attiré l'attention sur le décalage entre les slogans de l'Occident pour l'égalité, pour le soutien des pays africains et sa véritable politique économique. En particulier, le président russe Vladimir Poutine a souligné que des milliers de milliards de dollars et d'euros imprimés au cours des deux dernières années, donc ont été dépensés par les États-Unis et l'Europe pour acheter des marchandises sur les marchés mondiaux, ce qui a fait grimper les prix dans un contexte de mauvaise récolte et production réduite. Ce sont principalement les pays les plus pauvres, des pays d'Afrique et en partie d'Amérique latine et d'Asie, qui en ont souffert, a expliqué Poutine. Le nombre des pays africains qui ouvrent leurs portes à une coopération avec la Russie se rallonge. Cette fois, c'est le Zimbabwe qui souhaite donc renforcer ses relations avec Moscou. Selon certaines informations, dans le courant de la semaine, le président zimbabwéen, donc Emmerson Mnangagwa, avait déclaré son intention de renforcer la coopération de son pays avec la Russie. Et le président a indiqué que je suis ravi que nous ayons des positions similaires avec Vladimir Poutine sur le développement de nos relations. Le chef de l'État africain a également remercié son homologue et la holding hélicoptère de Russie pour avoir livré un véhicule et un hélicoptère d'ambulance au Zimbabwe qui souffre souvent des catastrophes naturelles et a besoin d'instruments pour sauver des vies. Ce développement intervient alors que le Zimbabwe est sous le poids des sanctions américaines depuis plusieurs années. La semaine dernière, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lors d'une rencontre avec Joe Biden, a plaidé pour la levée des sanctions contre le Zimbabwe. La politique néocoloniale des États-Unis et de ses alliés est dévoilée au grand jour, une politique de pression forçant les pays africains à se plier face aux quatre volontés des États-Unis et clairement donc perçue comme une politique dictatoriale néocolonialiste. Les pays africains donc se tournent de plus en plus vers les puissances du bloc de l'Est comme la Russie, la Chine, l'Iran ou même l'Inde car ces pays n'ont déjà pas de passé colonial en Afrique mais en plus c'est une relation gagnant-gagnant qui prime. En République démocratique du Congo, un convoi de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC a été pris à partie en début de soirée ce mardi, donc à Kanyaruchinya, au nord de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, dans le nord Kivu. Selon certaines sources dans la région, un porte-char qui transportait un tracteur a été incendié par plusieurs habitants en colère, en majorité des déplacés de la guerre du M23. Il y a le véhicule de la MONUSCO qui se dirigeait vers la ville de Goma. Ici, à Kanyaruchinya, la population qui voulait savoir pourquoi la MONUSCO passe seulement la nuit et non pendant la journée. Pour cette population, la MONUSCO transportait des suspects en provenance des zones occupées par le M23. La population voulait donc vérifier qui est-ce que le véhicule transportait. Et c'est en voulant forcer le passage que les habitants ont jeté des projectiles sur ce véhicule jusqu'à l'incendie. C'est un porte-char qui transportait un autre véhicule. Les deux ont été brûlés, témoigne un acteur de la société civile locale. La tension ne cesse de monter au sein de la population à Goma et aux alentours après la récente avancée du M23 dans le territoire de Rutshuru. Une grève a même été décrétée par la société civile en vue de protester contre l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Ce qui fait que les activités socio-économiques tournent au ralenti, notamment au nord de Goma. Je n'ouvre pas parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver au courant de la journée. Il y a de la circulation, certes, mais tout peut changer à tout moment, dit un commerçant. Au centre-ville de Goma, plusieurs activités restent aussi fermées. De nombreuses écoles n'ont pas accueilli les enfants parce qu'ils étaient gardés à la maison par leurs parents. Depuis plusieurs mois, les casques bleus de l'ONU, présents en RDC depuis plus de 20 ans, sont accusés d'inefficacité et même de complicité avec les groupes armés qui terrorisent l'est de la RDC depuis près de 3 décennies. La tension est particulièrement vive dans la province du Nord Kivu depuis la résurgence du M23 qui est à l'offensive depuis le 20 octobre dans le territoire de Rutshuru où elle s'est emparée de villes sur un axe routier stratégique desservant Goma. Les rebelles ont notamment atteint ces derniers jours Rumangabo, le siège d'une base de l'armée congolaise et du quartier général du parc national des Virunga. Alors que les rebelles du M23 ont repris l'assaut contre les forces de la RDC dans l'est du pays, gagnant du terrain, le Kenya a décidé de venir au secours de son voisin en déployant en RDC des troupes pour combattre les rebelles. Il sera question du premier test de guerre du président kényan récemment élu William Ruto et il a décidé de déployer des soldats dans l'est de la RDC pour aider à repousser les rebelles du M23 qui ont pris des positions critiques dans la province du Nord-Kivu, riche en minerais. Les forces de défense du Kenya donc rejoindront le contingent des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le déploiement de troupes kenyanes en RDC fait suite à une décision approuvée et adoptée par les dirigeants régionaux lors du troisième conclave des chefs d'État de l'EAC sur la paix et la sécurité dans l'est de la RDC qui s'est tenu à Nairobi en juin 2022, a déclaré le colonel Mwanga des FDK. Il a été convenu donc en juin de l'EACRF, donc devrait réprimer une flambée de violence dans l'est de la RDC. Cependant, ce mouvement a été garé alors qu'il essayait de donner une chance au dialogue. Les pourparlers restent le meilleur moyen de mettre fin au conflit et du 21 au 27 novembre, le Kenya accueillera les parties prenantes à Nairobi pour tenter de trouver une voie pacifique. La paix dans l'est de la RDC est essentielle pour toute l'Afrique et même surtout pour la population congolaise.
Au Niger, des centres de regroupement scolaire ont été ouverts pour les enfants de déplacés. À Oualam, une ville du sud-ouest, 1600 écoliers sont inscrits dans 3 de ces centres. Depuis le démarrage de cette initiative, 17 000 élèves ont déjà pu réintégrer le système éducatif et bientôt, plus de 55 autres vont aller dans une vingtaine de ces centres dédiés dans plusieurs villes du sud-ouest, abritant des déplacés. Selon les responsables pédagogiques de ce centre, les enfants présentaient des signes de détresse et de traumatisme à leur arrivée. Cependant, avec l'ouverture de ces centres, les enfants s'adaptent et leurs résultats sont de plus en plus encourageants. Ces enfants viennent de 18 villages proches du Mali, dont les habitants ont trouvé refuge fin 2021 à Oualam, fuyant les tueries des groupes extrémistes liés à Al-Qaïda et à Daesh, qui ont entraîné la fermeture des écoles. Les cours ont lieu dans des hangars ou des classes en dur, équipées de tables et de bancs offerts par des ONG. En plus du programme officiel, ces enfants de déplacés bénéficieront d'un suivi psychosocial. Le président camerounais a adressé ce mardi 1er novembre ses vives et chaleureuses félicitations à Lula da Silva suite à son élection à la magistrature suprême de la République fédérative du Brésil. En vous accordant à nouveau sa confiance, le peuple brésilien a fait le choix de votre projet de société, écrit le président camerounais, qui a souhaité l'essor des liens d'amitié et des coopérations dans divers domaines entre le Brésil et le Cameroun. Déjà président du Brésil du 2003 à 2010, Lula da Silva a de nouveau remporté l'élection présidentielle du 30 octobre dernier à 77 ans. Le premier port en eau profonde du Nigeria, le port de Lekki, a été remis lundi 31 octobre au gouvernement nigérian par l'entreprise chinoise CHEC, qui a construit cette importante infrastructure à Lagos, cœur économique de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le port de Lekki, qui est le plus grand port maritime du Nigeria et qui figure parmi les plus grands d'Afrique de l'Ouest, est conçu pour traiter 1,2 million de conteneurs standards par an. Sa construction avait été lancée en juin 2020. Ce nouveau port positionnera Lagos comme une nouvelle plateforme logistique maritime, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans toute la région d'Afrique centrale et occidentale, a salué le gouverneur de l'État de Lagos. Il devrait générer près de 200 000 emplois directs et indirects dans les années à venir, permettant de libérer le potentiel économique du pays et d'accroître les recettes fiscales, a-t-il ajouté.
La 7e réunion du comité interministériel de concentration Mali-Guinée s'est tenue à Kankan, en Guinée, le samedi 29 octobre, sous la présidence du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, en présence de son homologue, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures de la Guinée. Les travaux de cette rencontre ont essentiellement porté sur la construction du barrage de Fomi à but multiple et le renforcement de la coopération énergétique entre les deux pays. Le barrage de Fomi contribuera à satisfaire les objectifs de la régulation du fleuve Niger et de garantir le bon état écologique du cours d'eau. Il va également atténuer la dégradation de l'environnement créée par les étages répétés et surtout permettre de répondre aux besoins énergétiques et agricoles des deux pays.